Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse.
Nous traverse. Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Le Roi du Rayon, 93 FM.
Alors, mon premier est une note de musique. Mon second est le cœur du pain. Mon troisième est le petit truc qui tient la balle du golf. Et mon quatrième est une barrière végétale. Le tout est ce que l'on partage.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour. Alors, vous l'avez peut-être deviné, le thème de notre émission est... L'émission s'appelle...
L'amitié. Mais non, pas vraiment ça exactement comme titre. En fait, c'est plutôt... Nous vieillirons ensemble.
Voilà, c'est ça. Big up à Flo Megulinski.
Et donc, on est dans les studios ce matin avec Jo et Anaïs et moi-même, Céline, pour une petite émission printanière sur l'amitié. Ah, l'amitié, nos relations amicales, encore un sujet à mille tiroirs, comme dirait l'autre. Encore un sujet au contour flou et immense, difficilement cernable en une seule prise. Encore une thématique qui nous offre une plongée tant émotionnelle que politique. L'amitié est présente autant dans nos quotidiens, dans nos pensées, dans nos cœurs, que dans l'organisation de nos sociétés. Parce que l'amitié est loin d'être une thématique légère et puérile, toute petite peut-être par rapport à l'amour, mais parce que l'amitié, ou les amitiés en fait, devrais-je dire, peuplent nos vies et notre langage, parce qu'il peut s'agir de manque ou de trop-plein, de grandes joies, de petits bonheurs ou de ruptures douloureuses. Quoi qu'il en soit, l'amitié est un sujet auquel nous avons choisi de nous attaquer en ce printemps. Derrière le mot « ami », il y a une multitude de relations, toutes singulières. Il y a des histoires, des périodes de vie, des échanges, des émotions et des sentiments, des vécus dans le corps aussi, et puis des souvenirs, des tas de souvenirs. Et des espoirs aussi, des projets et des attentes. De l'amour sous toutes ses formes, finalement. Alors nous prenons le temps de déplier ces réalités plurielles, de faire une place privilégiée à celles et ceux qui nous accompagnent dans nos vies, avec qui on partage des tranches de vie. Cette émission est donc dédicacée à nos amis, ils et elles se reconnaîtront. Alors je sais pas vous, mais moi ça me rend un peu fébrile d'être avec mes amis là depuis qu'on prépare cette émission. Ça me fait une émotion un peu à fleur de peau ce matin. Mais cette émission est aussi dédicacée à toutes celles et ceux qui souffrent de solitude, qui se demandent avec tristesse ce qui cloche chez LE, pourquoi c'est si difficile d'entretenir des liens. Et puis aussi à toutes celles et ceux qui galèrent et qui ont besoin d'amour et de reconnaissance, comme tous les humains finalement.
Ok, donc on va se lancer tout de suite sur des histoires d'amitié. Alors moi j'étais au bord de la rivière il y a pas longtemps et j'ai demandé à mes amis de me parler d'amitié et surtout moi ce qui m'intéresse c'est les coups de foudre amicaux dans la vie. Donc vous allez entendre beaucoup la rivière, un peu mes amis j'espère aussi. Et à la fin on entendra un petit jingle qui vous rappellera probablement selon votre âge, peut-être votre enfance, votre adolescence, l'âge adulte, enfin un moment où on aimait bien traîner devant la télé. Pour regarder des adultes qui vivent en colocation, ce qui est quand même assez rare. Enfin, maintenant, de plus en plus courant, mais à l'époque, ça pouvait nous proposer un autre modèle dans la vie, quoi. Après, tout n'est pas bien dans cette émission. Je vous dis pas le nom, vous allez reconnaître. Voilà. Mais quand même, il y a des trucs qui sont sympas, parce qu'ils sont tous un peu copains.
Allez, on écoute ton montage.
Quand je te dis amitié, tu penses à quoi ?
Au Scooby-Doo, au Coca-Cola.
D'accord. Et Élise, quand on te parle d'amitié, tu penses à quoi ?
Des vacances et des glaces. Non, je sais pas.
Et toi, Orlando ?
un bac à sable et à des personnes qui m'entourent.
Pauline, quand je te dis le mot amitié, tu penses à quoi ?
Quand je pense au mot amitié, je pense à la durée dans le temps, aux amitiés qui durent dans le temps, quoi. Mais ouais, moi je dirais que les plus belles amitiés, c'est celles qui durent depuis longtemps, qui se sont épanouies comme ça, quoi.
Des années, voilà.
Comment c'est une question à vous trois, comment vous devenez amis avec des gens, comment vous, à un moment donné, vous vous dites bah cette personne c'est mon ami?
Moi je crois des fois je me lance un peu, tu vois, genre je leur dis ou même je leur pose la question, pas toujours mais ça m'arrive. Quand c'est pas des amis d'amis, tu vois, que c'est un peu des gens isolés comme ça,
moi je dirais je suis timide un peu. Je pense que j'oserais pas poser, même si y a une personne que j'aime trop, j'aimerais bien que ce soit mon ami. Je pense que j'arriverais pas à lui demander est-ce que t'as envie d'être mon ami ou est-ce qu'on est amis. Enfin voilà, moi je repense avec Orlando aussi. Avec Orlando, tous les deux, on s'aimait bien. Mais en fait, c'est un ami d'André. Du coup, moi je me disais, bon, c'est un ami de mon coloc. Mais bon, quand même, je me disais, je l'aime bien. Et quand tu nous as prêté ta voiture, Jojo, pour qu'on se rejoigne dans les Alpes. En fait, on est partis tous les deux dans ta voiture et on se connaissait pas trop. Et on était tous les deux timides. Des fois, il y avait des trajets d'une heure où on se posait une micro-question, on parlait pas trop. Et des fois, on s'endormait le soir à côté, sans trop parler, en se racontant des petites anecdotes. Et t'as envie de compléter ?
Bah oui, non, je suis d'accord. Il y avait un peu de timidité, nanan. Tu sais, t'avances un peu à tâtons, machin. Mais après, je pense que, en tout cas, dans notre histoire, j'ai l'impression que c'est un peu le moment où on devient amis, finalement. Parce qu'on s'est avoué qu'on voulait être amis, mais implicitement. Enfin, discrètement, on va dire. Voilà, et en même temps, c'est drôle, puisque maintenant, quand on y repense, c'est drôle de voir à quel point on était tout gênés, nan, nan. Alors que maintenant, on parle de manière fluide et naturelle, sans barrière.
Élise, tu te souviens, la première fois que je t'ai parlé, je pense que tu t'es dit jamais ce serait ma pote. Je
n'arrive pas à me rappeler la première fois qu'on s'est vu. C'était où ?
C'était à Toulouse et je t'ai dit un truc complètement embrouillé et qui était, je pense, assez vexant parce que tu t'es dit la meuf elle se fout de ma gueule. Et en fait, j'essayais de te faire une blague mais c'était nul. Tu t'en souviens ou pas ?
Je me souviens qu'on n'est pas devenus amis à Toulouse en effet. Mmh. Mais c'est marrant, moi je trouve il y a des amitiés des fois qui mettent longtemps à arriver. Genre, bah toi, Jojo, je pense qu'on a habité ensemble et qu'on habite ensemble, qu'on est devenus amis. Et des fois, il y a des gens, c'est plus comme des coups de foudre amicaux. Moi je trouve souvent les gens, en tout cas, moi les gens avec qui je suis devenue amie, c'est des gens souvent avec qui j'ai fait des choses.
Est-ce que vous avez déjà flashé sur quelqu'un, mais en vous disant cette personne, j'aimerais vraiment que ce soit mon pote ou ma pote?
Ah ouais,
comme un petit coup de foudre amical, quoi. Raconte, s'il te plaît. Il faisait beau.
Attends.
Elle portait un t-shirt rouge.
Ah, mais oui, il y a très pas longtemps.
Non, mais c'était... En plus, c'est marrant, parce que c'est genre... Je l'ai rencontré à une formation de ASSO, sur la souffrance au travail. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on vivait un peu des trucs similaires dans notre travail, et que je trouvais qu'elle avait l'air... hyper sympa. Et quand on est parti de la formation, j'avais vraiment trop envie qu'on soit amis. Et on se l'est dit, toutes les deux en plus, quand on est sorti de la formation. Et c'est rigolo parce que je l'ai recroisé la semaine dernière, en vacances, hors pierre, en train de faire de l'escalade. Et du coup, là, on s'est échangé nos numéros et j'étais trop contente. Et on s'est dit qu'on irait faire de l'escalade ensemble. Voilà.
Et vous ?
Moi, oui, ça m'arrive d'avoir un peu des coups de foudre amicales, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va devenir amis vite. Moi, je crois que je suis lent dans les relations et du coup, même s'il y a des gens, je les aime bien, je ne me jette pas à corps perdu dans une nouvelle amitié comme ça. Ça ne m'inspire pas confiance quand ça va trop vite.
Et toi, Jojo ?
Oui, moi, oui. Par exemple, une copine de fac... Je l'ai vue, je me suis dit, elle, j'ai trouvé que ce soit ma pote. Et je l'ai regardée pendant, allez, des mois, quoi. En amphi. Et un jour, manif sauvage, on allait partir, elle passe à côté de moi, et là je me suis dit, c'est le moment. Je la drague, je lui dis, tu veux pas venir à la manif sauvage avec moi? Et elle vient, et c'est devenu ma pote.
Waouh.
Mmh. Ouais, et une autre, une copine que j'ai vue sur une place, enfin, du coup je la connaissais pas, et je me suis dit, oh, elle a l'air vraiment super. Et en fait, il s'est avéré que c'était une pote de pote et qu'on a fini par travailler ensemble. Mais quand on s'est revus et que je me suis dit « Ah, mais c'est avec elle que je vais bosser », j'étais trop contente. Je me suis dit « Mais ça y est !» Je me suis dit « C'est le destin. »
Est-ce que t'as déjà eu un coup de foudre amical ?
Oui, bah c'est avec la deuxième marraine de auto, Anaïs. Et j'avais 19 ans, on l'a présentée parce qu'elle cherchait à se mettre en coloc, et moi aussi. On s'est rencontrés, on s'est tout de suite, je sais pas, tout de suite on s'est aimés, quoi. Et là, ça fait maintenant 15 ans qu'on se connaît. Et pourtant, on n'a pas toujours vécu dans la même ville, on était loin, on a fait d'autres choses, mais j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, quoi. Tu vois, c'est un peu comme ma famille, un peu comme... Tout de suite, je savais que ça serait mon ami. Et j'avais très, très envie que ça soit mon ami. Genre, c'était... J'avais trop envie que ça soit mon ami. Et apparemment, elle aussi.
Est-ce que toi, t'as déjà eu un coup de foudre amical ?
Je crois pas que j'ai eu un coup de foudre. Mais j'ai l'impression d'avoir souvent eu des espèces de relations fusionnelles à deux et qui passent après. Tu vois, comme des trucs un peu... Et qui arrivent assez vite et qui repartent aussi assez vite. C'est pas des friendship at first sight, quoi.
Ah bah c'était ça que je voulais dire. Tu vois, tu vois les gens et tu te dis,
ah mais si
cette personne-là, mais ça va être mon ami, ou je voudrais que ce soit mon ami.
Mais moi, je sais, je me souviens de mon premier jour de 6e. J'ai vu Eva Nonnen, ma chère, et je me suis dit, ah non mais elle a l'air d'être complètement ouf cette fille. J'aimerais trop être sa copine. Si je suis sa copine, genre j'ai réussi ma vie, quoi.
Mais non.
Mais je te jure, j'ai vu Eva, j'étais complètement ébahie. J'étais impressionnée en fait par Eva. Mais je la connaissais pas, je lui avais jamais parlé encore. Je savais pas que c'était une nouille. Et donc j'ai vu Eva mon premier jour de 6e et je me suis dit, toi, cette meuf elle a l'air trop cool. J'aimerais trop être sa copine. J'ai réussi.
Bravo. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, even your year. But I'll be there for you.
Ces dernières semaines, Miette et moi, on a entretenu une correspondance par lettre. On s'est dit que c'était une correspondance fictive. Parce que sinon, ben ça modifie l'écriture d'écrire une vraie lettre à une amie qui en fait va pas rester intime. Alors, poser que c'est fictif, ça permet de se sentir plus libre et pudique aussi. Miette et Sam sont des amies depuis 6 ans. Elles ont inventé un petit concept... s'écrire des lettres qu'elles prennent en photo et qu'elles s'envoient avant de pouvoir se les filer en vrai. Ou bien, par exemple, écrire sur un ordi et le faire lire à l'occasion d'un repas ensemble. Le 11 mai 2024. Wesh baby. Je suis calée dans ma voiture cabane à l'ombre. Saul fait la sieste après les croquettes. On s'est baladé ce matin. C'est joli comme Villefois. Et c'est si vert dans le coin. Ça me fait penser à chez nous, en moins aménagé. C'est moins hype ici, même si c'est chelou de dire ça vu qu'on habite dans la pampa. Mais pas tant que ça comparé à la plupart des campagnes au final. C'est la fête de l'amour de Laure et Clotilde. Il y a leur mif et tout. Je suis contente d'être là, célébrer leur histoire qui prend un nouvel engagement. C'est Clotilde qui vient se rapprocher de Laure. J'aime bien les engagements, même si c'est flippant. C'est flippant, surtout les engagements d'amoureuse. Mais enfin, peut-être pas que. J'aime bien les engagements qui se laissent de l'espace. Que ça soit autre chose que fusionner. Hier, ma médecin amie m'a dit que c'est bien si j'habite seule pour le moment. Que je me fais envahir sinon. Et c'est vrai. Il y a mes besoins et mes envies, et là, c'est par accord. Pour l'instant, c'est bien que je prenne soin des réminiscences d'agression pendant mon enfance, de tout ce dont ça parle, de ce que ça fait. Bizarrement, ça m'a mise sur une route que j'aime bien, cet ébranlement. Une route où j'apprends à être plus consciente de mes limites, de mes stratégies, de compensation, de mes signaux d'alerte. Je suis encore surprise quand je mets mes contours tels quels dans l'espace relationnel, de capter à quel point ça ouvre des chemins, plutôt que faire des impasses et des pièges. J'aime bien l'engagement que j'ai auprès de Saul. Je me dis aussi que je pourrais m'engager avec moi-même, mais bon, c'est différent quand même que s'engager avec d'autres. Hier soir, Laure et Clotilde ont ouvert le karaoké en chantant une chanson qui s'appelle « Tendresse, tendresse ». Clotilde a dit « Ça, c'est l'endroit où on se retrouve. On s'engueule sur tout le reste, mais la tendresse, c'est l'endroit où on est raccord. » Je trouve ça trippant, leur rapport au conflit. Elles ont l'air souvent saoulées l'une par l'autre, ou saoulées dans un sens et désemparées dans d'autres. Et quand même, il y a ce choix d'engagement. Ici, il y a Mathilde. C'est une autre grande amie de Laure. On parle des rapports à nos liens avec elle et Laure. Mathilde, elle prend soin de beaucoup de liens aussi. Elle prend beaucoup soin des liens. Ça me fait plaisir d'avoir pris ce temps pour t'écrire. J'espère que tes jours laissent passer des fleurs dans les fissures. Plein de love, Sam.
Le 15 mai 2024. Coucou mon petit pote. Ça fait plaisir de te lire, ça faisait longtemps. J'étais dans ta verdure quand je t'ai lu. C'est drôle, une fête à l'amour. J'ai une pote qui me disait toujours que ça devrait être comme ça, les mariages. Pas jurer la fidélité, la blague, ou je sais pas quoi d'autre. Juste fêter l'amour d'un instant et l'engagement. Jolie rencontre pour toi, alors. Je te trouve forte de prendre comme ça tes séismes du moment. Tu changes tellement, tu le vois ? Chemin, chemin, virage, serré, courbe, chemin, virage. On avance, quoi. Moi aussi, je change. Je me disais, avant, rien sans mes piliers. Besoin de repères, donc rien sans mes piliers. Tu sais, tu vois, là, la MIFA, ta famille de cœur. Je me moque, mais c'est le à la vie, à la mort, un peu, quoi. Tes poteaux. Bah, en ce moment, j'arrive à flotter. Mes piliers sont là, quelque part. Mais j'arrive à flotter sans. 1000 rencontres. Beaucoup de nouveaux liens en création, qui n'ont pas encore la densité des piliers. Qu'ils n'auront peut-être jamais d'ailleurs. Mais ça me nourrit, je me sens libre. Peut-être que j'ai un pilier du dedans aujourd'hui. Instant bisounours. My God, je suis une catastrophe de bisounours. J'ai l'impression de flotter dans un arc-en-ciel et de goûter toutes les couleurs. C'est riche, précieux de se sentir libre. Je me le répète souvent. Tu es mon pilier, toi aussi, tu sais. J'aime trop nous observer changer avec le temps. Ça fait un moment qu'on se kiffe toutes les deux. Une fête à l'amour de pote, alors. Des bécos, mon petit pote, je te kiffe. Miette.
Mi hermana.
las estrellas, María que ya no aguanta, sale a bailar con ella. Baila la reina del cielo junto a la reina gitana. Baila la reina del cielo junto a la reina gitana.
Lola gitana, Lola mi amiga, mi hermana.
La algarabía del cielo ya se escucha en toda España.
C'était Celia Cruz, la reine de la salsa, qui faisait un hommage à son amie Lola Flores, son amie qui était aussi une grande actrice, chanteuse, danseuse de flamenco. Voilà. Et maintenant, à toi Céline.
Ah, c'est à moi. C'est vrai, c'est ma partie. J'y étais pas. Bon, tout va bien. Eh ben, non, c'est parce que je suis un peu à fleur de peau, je l'ai dit, hein. Cette émission me trouble. Alors, en préparant cette émission sur l'amitié, moi, une des premières choses qui m'est venue, à part de penser à tous mes liens et d'avoir envie de les célébrer, c'est un livre de Geoffroy de Laganerie, qui est plus qu'un éloge de l'amitié, mais davantage une proposition d'un autre projet de société. Alors, son livre, ça s'appelle « L'amour à trois, une aspiration au dehors ». Ou alors juste trois, d'ailleurs. Une aspiration au dehors. Moi, ce qui m'a touchée, c'est que je me retrouve dans ce qu'il dénonce comme étant le socle de l'organisation de notre société, basée sur les institutions du couple et de la famille. Rien de nouveau sous le soleil. Et du coup, ce que j'ai trouvé inspirant, c'est qu'il dénonce ça, mais c'est aussi la radicalité avec laquelle il en parle et ce qu'il propose de nouveau pour s'en décaler. Une vie où l'amitié serait centrale et revalorisée. Alors Geoffroy de Laganerie, pour celles qui ne le connaissent pas, il est philosophe et il brode tout au long de son essai une proposition d'une utopie radicale qui permettrait, selon lui, de vivre dans une société plus démocratique. Le point de départ de sa réflexion sur l'amitié comme mode de vie, c'est la description de la relation qu'il a nouée avec Didier Héribon et Édouard Louis. Alors Didier Héribon, c'est aussi un sociologue, philosophe bien connu pour ses essais politiques et intimes. Et Édouard Louis également, qui est romancier. Et donc du coup, moi j'ai choisi de vous donner un aperçu de ce qu'il développe dans ce livre, en me basant notamment sur une interview qu'il a réalisée le 28 mars 2023 à la librairie Mola, et qui dure une heure et qui est trouvable en ligne. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'émission. Alors voilà, pour commencer, en introduction, je vous propose d'écouter sa proposition de projet de rupture sociale.
Est-ce que l'amitié, comme lieu possible de réinvention de soi et de réinvention de son rapport aux autres, comme lieu possible de transformation de la vie, pourrait pas être une réactualisation contemporaine de la théorie de l'utopie, c'est-à-dire une manière non pas de sortir de la société en se coupant de la société, mais en réagençant différemment nos liens avec les autres, en pensant différemment la vie? Et donc, est-ce qu'on pourrait pas renouveler aujourd'hui la question politique de l'utopie à travers la figure de l'amitié comme mode de vie? En gros, l'idée, c'est, est-ce qu'on pourrait pas, pour la gauche, faire de l'amitié comme mode de vie un projet politique aussi important que ce qu'a été le communisme ou l'anarchisme? Oui, un projet de rupture sociale.
Alors voilà, le décor est planté. L'amitié comme projet politique radical et subversif, c'est parti. Alors moi aussi, j'ai été surprise et intéressée par ce qu'il développe sur le rapport au temps et au rythme. J'y avais pas pensé. Mais pour lui, faire de l'amitié un projet de société revient entre autres à reconsidérer la notion de temps et l'aspect normatif et normalisant qu'il a dans notre société. Il parle du rythme notamment imposé par la structure familiale, le temps scolaire et le couple, que l'amitié comme mode de vie invite forcément à vivre et à penser autrement. Alors j'ai pas le temps de passer cet extrait, mais je vous invite vivement à aller l'écouter. Et pour continuer, en plaidant pour une déprécarisation de l'amitié et en analysant les effets du pouvoir qui structure notre société, il en arrive à évoquer le rapport à la norme, plus généralement vécu par celles et ceux qui en sont décalés. Il parle des personnes handicapées, mais sa réflexion, pour moi, elle est valable aussi pour les personnes neuroatypiques ou alors sur le spectre autistique, par exemple.
Penser une dissidence, c'est intéressant quand ça permet à d'autres dissidents de se penser eux-mêmes. Et que la force de la théorie par rapport à d'autres types d'écriture, c'est qu'elle va transposer quelque chose de personnel, parce que le livre part quand même d'un récit personnel de mon amitié avec Didier Héribon et Édouard Louis, pour ensuite la transposer au niveau d'une forme sociale qui interroge la société et qui fait qu'ensuite d'autres gens qui ont d'autres types de décalage peuvent eux-mêmes s'en servir pour interroger leur propre décalage. Et je pense qu'effectivement, l'amitié étant l'une des formes de vie précarisées dans nos sociétés, c'est-à-dire l'une des formes de vie qui n'est pas reconnue institutionnellement, l'une des formes de vie qui n'a pas de reconnaissance juridique, l'une des formes de vie qui n'est pas structurée, préalablement encouragée par les cadres quotidiens de la vie, que l'amitié dans nos sociétés est une forme de vie précarisée. Quand on réfléchit à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire de construire une amitié? Et que ça veut dire de s'affronter à la guerre que la société fait à l'amitié pour la construire comme un centre? Ben, on est amené à comprendre tout un ensemble de dispositifs de pouvoir implicites que nos sociétés veulent pas penser. Voilà, le rapport au rythme, le rapport au matin, le rapport à l'école, le rapport aux institutions, etc. Et donc, tous les gens qui sont eux-mêmes des dissidents de cet ordre-là, bah, ont expérimenté les mêmes types d'affrontements, en vérité, les mêmes types de fermetures, soit sur leur question de leur rythme, soit sur leur question de leur manière d'avoir un rapport aux institutions, soit sur la manière de d'écrire différemment ou de parler différemment. Et de ce point de vue, l'amitié peut être le lieu d'une interrogation générale sur les effets de normalisation propres à nos sociétés, et donc effectivement sur la question du handicap. Je pense que beaucoup de gens qui ont construit des vies, qu'ils ont des handicaps, etc., doivent s'affronter à des normes implicites ou des exigences implicites considérées comme obligatoires, peuvent se reconnaître dans des effets de pouvoir que je décris. Ouais.
Alors, moi, à cette réflexion, je rajouterais qu'elle est valable aussi pour celles qui vivent en dehors des cadres imposés par l'hétérosexualité, notamment la vie conjugale et familiale. D'ailleurs, le fait qu'il s'agisse d'une amitié entre eux trois, entre trois hommes gays, pour moi, c'est pas anodin. Et ça veut dire quelque chose de ces cadres normatifs posés par notre société. Après, dans la suite de l'échange, la journaliste le questionne sur l'aspect féministe de son essai, sur comment l'amitié comme centre de nos vies est un projet révolutionnaire et féministe, donc, qui sortirait les femmes hétérosexuelles mariées, notamment, de cette condition que Annie Ernaux nomme la femme gelée, prisonnière du patriarcat.
Et je pense qu'une grande partie des femmes, effectivement, ont tendance à avoir le sentiment que leur vie a été volée par la société, c'est-à-dire par une certaine image du bonheur sur le maître, de la mise en couple, de s'installer avec la personne, d'avoir des enfants et que ce serait ça la vie accomplie, mais qui très très vite se retrouve dans la position que Annie Arnaud appelle la femme gelée, c'est-à-dire la femme qui est prisonnière de la reproduction des tâches domestiques et de la reproduction des exigences du foyer et qui a l'impression de passer à côté de sa vie, qui a 30 ans, 35 ans et qui a une vie ultrêmement réglée. Je rappelle que dans Le suicide de Durkheim, qui est un des grands livres sur le suicide, hein, la femme mariée a un coefficient de suicide supérieur à la femme célibataire, et le mariage est une circonstance aggravante de suicide pour les femmes à cause précisément de l'effet d'enfermement. C'est ce qu'appelle le suicide fataliste, c'est-à-dire que la vie est toute tracée, il n'y a plus d'espoir de vie future possible, et donc il y a un effet de suicide très fort qui se déclare sur la femme mariée. Et plus elle a d'enfants, plus elle se suicide, d'ailleurs, la femme, statistiquement. Donc c'est intéressant quand même à le penser sur des malheurs qui ne sont jamais pensés comme tels.
Voilà, alors là, ça jette un petit froid dans le studio. Pourtant, je ne crois pas qu'il y ait de femmes mariées autour de la table. Mais bon, il critique le couple comme centre de l'existence et notamment la cohabitation. Et c'est pas facile à entendre, hein, je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est ce qu'il propose, lui, autour de l'amour. Comment l'amitié est une forme d'amour qui manque de considération alors qu'elle porte en elle une proposition radicalement subversive. Il parle en cela d'amicaliser l'amour plutôt que de rendre l'amitié amoureuse. Vous voyez la différence. Et en ça, moi, je me dis que c'est peut-être ce que je vois, moi, dans le milieu queer et féministe, notamment. C'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce qu'on tente de se proposer. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'observe à certains endroits. Moi, j'aimerais bien parler plus largement de soins communautaires avec cette idée de l'amitié, de mode de vie où on prend soin de nos liens et ça nous soigne les uns, les unes, les autres. Ça me fait penser à la notion de témoin, notamment. Je sais pas vous, mais moi, j'ai la sensation que dans mes relations, dans mes liens, on agit comme des témoins de la vie les unes des autres, des phases qu'on vit, des changements, des douleurs, des joies. C'est un peu ce qu'on entend dans la correspondance sur être vu par celles et ceux qu'on aime. Et moi, ça me plaît de penser ça dans l'amitié. Et bien, du coup, on écoute ce qu'il nous dit sur le couple amour.
Alors, dans la famille, il y a quand même deux choses. Il y a le couple et il y a la parentalité.
Oui.
En réalité, est-ce que ce n'est pas plus encore la parentalité qui pose question, ou est-ce que c'est déjà d'entrée de jeu le couple ?
Oui, ben moi, je pense qu'effectivement, c'est très bien de poser la question comme ça. Le couple, pour moi, est une forme qu'on doit mettre en question dans la manière dont il fonctionne dans nos sociétés, et notamment à travers la figure de l'installation ensemble, et de penser que le centre de sa vie est l'amoureux ou l'amoureuse. Très souvent, on va avoir dans les images de la vie et du bonheur de rencontrer l'amour. Et puis, quand on est amoureux, tout de suite, c'est s'installer ensemble, etc., et vivre à deux dans un vase clos. Et dans mon livre, d'ailleurs, donc, je relis les fragments d'un discours amoureux de Barthes, qui est une anthropologie du sujet amoureux. Mais en fait, ce qu'on voit tout de suite, et qui est quand même très intéressant, c'est que quand vous pensez l'amour à travers la figure du « deux » et du « couple », tout de suite, vous êtes dans une forme d'enfermement à deux, où le dehors devient ce qui menace. Le dehors devient le rival. Et donc, le couple produit un effet d'enfermement de deux personnes l'une sur l'autre, une espèce de face-à-face psychologique paranoïaque. Et très vite, en fait, les affects structurants de l'amour vont être la jalousie, l'angoisse, l'attente, rien de très joyeux, quoi, hein, en vérité. Je pense que beaucoup de gens dans le couple, et puis au bout d'un moment, quand même, l'ennui. Et je pense que de ce point de vue-là, effectivement, le couple crée une concentration psychique sur l'intérieur, sur la relation qui devient un centre de soi, alors qu'une vie relationnelle, à mon avis, est susceptible d'être un peu plus riche si jamais elle n'a pas de centre, justement. Et j'essaie de définir aussi ça comme l'aspiration à l'amitié est une aspiration à une vie sans centre, puisqu'on met au centre de sa vie la rencontre. Et si on met au centre de sa vie la rencontre, on rencontre toujours les amis de ses amis. L'amitié est une forme transitive, et donc ça vous déplace en permanence. Et donc vous n'avez pas un lieu où vous revenez après avoir vu l'ami, qui serait le vrai centre, qui serait je reviens après de la sortie avec mes copains et je vais en couple en parler à mon copain ou à ma copine, etc. À ce moment-là, l'intérêt psychique devient le couple. Et donc, dans mon livre, j'essaie de dire, il serait intéressant de penser qu'est-ce que ça veut dire amicaliser l'amour. C'est-à-dire, non pas tellement de penser que, très souvent, dans nos sociétés, on pense, pour faire l'éloge de l'amitié, qu'il faut le rapprocher d'autres formes. Et on va très souvent dire d'un ami très très proche, ou c'est mon frère, ou c'est comme mon frère. Donc penser qu'en fait faire l'éloge de l'amitié, c'est le rapprocher du lien familial. Ou on va dire c'est comme un amoureux sans sexualité, en fait. C'est je l'aime, on n'a pas de sexualité, mais je l'aime. Et donc en fait, on pense qu'un ami, c'est jamais quelque chose d'assez fort. Ça devrait toujours être ou de l'amour ou de la famille pour être très puissant. Et moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que l'amitié est une forme de vie beaucoup plus belle que l'amour et que la famille. que c'est une forme de vie beaucoup plus généreuse, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus libre que ces deux autres formes. Et donc, peut-être il est plus intéressant d'amicaliser les relations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, amicaliser les relations? Et j'ai beaucoup dit, par exemple, moi, que j'essaie de construire avec ma mère un rapport d'amis, par exemple. Voilà, j'aime pas voir ma mère quand elle est ma mère, c'est-à-dire, en gros, dans les relations obligatoires et les cérémonies familiales, mais j'aime voir ma mère quand je vais au cinéma avec elle et qu'on dîne après, etc., des choses comme ça. C'est une relation d'amitié avec ma mère. Et qu'en fait, je pense que les relations d'amitié sont plus belles, et donc, effectivement, ça attaque la forme conjugalité.
C'est trop bien ce qu'il dit.
Ouais.
Je suis contente que ça vous plaise, mais je pense que peut-être ça peut faire mal à certaines oreilles, par contre. Je ne sais pas, chers auditeurs, auditrices de l'Éclat des Noctules. Bon, mais en tout cas, moi, qui vis et qui ai vécu la plupart de ma vie adulte en dehors de la structure du couple et qui n'ai pas construit de structure familiale, une vie sans centre, quoi, et ben moi, ça me touche particulièrement d'entendre quelqu'un qui revalorise l'amitié à ce point et qui affirme si fort que c'est une forme de vie libre et généreuse. Vous, ça vous fait ça aussi ?
Ah oui.
Ah oui. Bon, alors après, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il fait un détour par le vocabulaire et le langage comme structure de pouvoir. Comment nommer toutes ces relations ? Pourquoi nous n'avons qu'un seul mot, ami, alors que ça revêt des réalités si différentes ?
C'est vrai que l'amitié, ça m'a frappé en écrivant le livre, c'est-à-dire comment je nomme la relation avec Didier et Edouard ? Parce que le livre, donc, s'appelle Trois, puisqu'il part de cette idée de notre relation à tous les trois, le fait que depuis 10 ans, on se parle pratiquement tous les jours, on s'écrit tous les jours, on se voit pas tous les jours, mais on se donne des nouvelles en permanence, on part en vacances ensemble, on fête Noël ensemble, donc on a construit une relation comme ça, extrêmement intense, extrêmement forte, fondée sur l'amitié comme étant au centre de notre vie. Et je me disais, comment je peux nommer cette relation, sachant que le mot ami est aussi un mot que je peux employer pour quelqu'un avec qui je vais dîner une fois par mois, par exemple. Qu'un ami, ça peut être quelqu'un que je vais voir tous les 6 mois s'il habite pas à Paris, etc. Et donc, comment se fait que dans notre société, le mot ami soit une espèce de signifiant vide de tout ce qui reste quand on a enlevé les relations institutionnelles, en fait. On a les relations familiales qui ont, on peut, je dis dans mon livre une phrase comme ça, je vais jamais la faire, mais il y a un mot différent pour nommer le fils du frère de mon père et le frère du cousin germain de ma mère. Mais il n'y a pas de mot différent pour nommer Édouard et quelqu'un que je vois une fois tous les 6 mois, quoi. Ça dit quand même quelque chose de fou sur la manière dont le langage dans nos sociétés a formé une reconnaissance aux liens institués. Même dans l'emploi, il y a le N plus 1, le N plus 2, le N moins 1. On a plein d'hiérarchies. On sait nommer les gens avec des mots différents. Bah, dans l'amitié, on n'a pas ça parce que le langage se désintéresse de donner un statut à l'amitié, parce que, de fait, l'amitié est une forme de vie précarisée dans nos sociétés et délégitimée dans nos sociétés, et dont l'un des exemples que je prends dans mon livre étant le moment des confinements. Et ce livre est né au moment des confinements et comme une espèce de rébellion contre ce qui se passait au moment du confinement. J'avais écrit un article dans les Inrocks pour en parler à ce moment-là, en disant que le confinement avait accompli une forme de destin de normalisation du modèle du familialisme, puisqu'on pouvait traverser le pays pour aller chercher son enfant et on pouvait pas traverser la rue pour voir son meilleur ami. Donc il y avait quand même cette idée folle que les relations familiales pouvaient être toujours encouragées, nécessaires, et que les liens amicaux étaient des liens dangereux pour la société et qu'il fallait les suspendre. Je rappelle qu'en France, quand même, on a levé le couvre-feu pour Noël, mais qu'on l'a maintenu pour 31 décembre. Donc ça veut dire qu'on a considéré que la fête familiale était supérieure à la santé de la nation, en quelque sorte. Mais la fête amicale, non. C'est quand même fou, quoi. C'est une dégradation du lien amical qui est terrible. Et paradoxalement, c'est l'un des liens avec le moindre connaissance. On peut pas se paxer à 3 ou à 4. Très difficile de léguer à ses amis des choses. Si vous avez votre ami qui est malade à l'hôpital, vous pouvez pas le rendre visite alors que la famille peut prendre des décisions sur sa santé. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui disent beaucoup dans nos sociétés. Si vous dites je peux pas lire au bureau parce que mon fils est malade, on va vous comprendre. Si vous dites parce que mon meilleur ami est malade, on va dire dans tes rêves. Non, mais c'est vrai, quoi.
Voilà. Alors, est-ce qu'on n'essayerait pas de se proposer des nouveaux mots pour définir nos amitiés ? Franchement, ce serait un beau challenge.
Moi, je trouve dans le rap, quand même, souvent, les gens, ils disent genre mélové, par exemple. C'est
comment ?
Mélové.
Mélové.
Ouais. Les gens que tu loves, quoi.
Ah ouais. Peut-être ça marche.
Bah, je me dis, il y a pas mal de trucs.
Mes copains, mes copines,
mes potes, ouais.
Mes best friends, mes chouchous.
Ouais.
Voilà, on a qu'à étoffer notre langage et élargir notre palette de vocabulaire à notre créativité, donc. Et moi aussi, après, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'il propose, il a quand même un sens de la punchline, Geoffroy, hein, vous avez remarqué, c'est qu'il nous permet de critiquer l'autorité et la manière dont nos sociétés sont gouvernées. Alors là, il convoque Derrida et Aristote pour parler de la démocratie, et j'aime bien la manière dont il fait le lien entre amitié et démocratie, et ce qu'il y aurait à faire pour qu'on structure nos existences et nos institutions de manière moins autoritaire. Moi, je trouve que c'est une sacrée conclusion, quoi.
Et Derrida rappelle qu'Aristote disait qu'il y a un rapport entre les formes politiques et les formes de vie. Et il dit la tyrannie est dérivée de la famille et la démocratie est dérivée de l'amitié. Aristote dit que la famille a un rapport à l'autorité arbitraire, à la naturalisation de la force, à la docilité, à l'obéissance aveugle. Je suis le père, je décide, c'est mes règles. Donc il y a un rapport entre cette forme de vie-là et le fait qu'elle domine dans nos sociétés et le fait que nos sociétés soient tyranniques ou gouvernées de façon tyrannique. Alors qu'Aristote dit l'amitié a un rapport à la réciprocité. Et donc ça veut dire que l'amitié a un rapport à l'échange, à l'égalité, à la réciprocité, à la convention, à la création et donc à la démocratie. Donc ça veut dire, et ça c'est Aristote et c'est quand même révolutionnaire, oui. Aristote le dit comme ça, et donc Derrida le rappelait dans Politique de l'amitié, qu'il faut faire une politique de l'amitié, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est une phrase d'Aristote, hein, la politique accomplit son œuvre dans le progrès de l'amitié. Le but de la politique, c'est créer le plus d'amitié possible. Donc ça voudrait dire que nos sociétés devraient être organisées exactement à l'inverse de ce qu'elles sont aujourd'hui. Parce que l'une des questions qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qui fait que perdurent des structures d'autorité autoritaire dans des sociétés qui se présentent comme démocratiques. Si on est aristotélicien, lu par Derrida, on va dire c'est parce qu'en fait, la structure de base de nos sociétés reste la famille et qu'on passe notre temps à encourager le modèle familial, les allocations familiales, les politiques familiales, les rapprochements de conjoints, l'héritage, etc. La famille est une espèce de structure de base de nos sociétés, de structure mentale, de structure sociale, de structure psychique, qui fait que comme nous passons tous par la famille, et bien précisément, nous avons un type de rapport à l'obéissance et à l'ordre qui est dérivé de cette structure-là. Et donc, comme nous consolidons la famille, nous ne pouvons pas créer de société démocratique. Donc il faudrait qu'en fait, la politique fasse exactement l'inverse, qu'il y ait un ministère de l'amitié, qu'il y ait des allocations amicales, qu'il y ait des rapprochements d'amis. C'est-à-dire, en fait, il faudrait encourager l'amitié. Et quand on encouragerait l'amitié, et bien on créerait des formes de vie beaucoup plus conventionnelles, beaucoup plus égalitaires. Les gens auraient beaucoup moins de rapport à l'obéissance, à l'autorité, à la force. Et peut-être que c'est comme ça qu'on créerait une société démocratique. Donc ça, je pense que c'était une idée vraiment assez magnifique.
Une idée assez magnifique et un projet de société complètement subversif. Franchement, merci Geoffroy, Geoffroy de Laguenerie, président.
Ministre de l'amitié.
Ministre de l'amitié, j'ai envie de dire, ouais. Allez, une petite dernière pour finir. L'amitié est renvoyée sans cesse à l'immaturité, alors que la famille et le couple seraient l'accomplissement de l'âge adulte, de la maturité. On réalise son ancrage dans le monde, vous voyez. C'est comme si nous, alors les personnes qui mettons l'amitié au centre de nos vies, sans créer des familles et des couples, nous étions forcément immatures et bloquées à l'adolescence. Une vision un peu condescendante de nos formes de vie. Et donc, on va écouter ce qu'il dit sur la jeunesse.
L'une des manières de dégrader l'amitié dans nos sociétés, c'est de l'amener à la jeunesse. C'est-à-dire de dire, en fait, c'est ce qu'on fait quand on est jeune. Et donc, sous-entendu, la vie d'adulte est fondée sur le renoncement de la vie amicale. Sous-entendu, il faut abandonner ses amis à un moment dans sa vie pour mettre au centre la famille, les enfants, etc., et pour ne les voir une fois de temps en temps, mais qu'ils occupent plus le quotidien de sa vie. D'ailleurs, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur Aristote, puisque moi, je dis peut-être que l'une des explications du fait que les jeunes votent plutôt à gauche, c'est le fait que leur mode de vie est amical. Précisément. Peut-être qu'on n'interprète jamais ça comme étant une caractéristique de leur mode de vie, mais après tout, pourquoi pas? Peut-être que c'est l'une des principales explications de la domination des opinions de gauche dans la jeunesse. Peut-être que c'est possible. Mais en tout cas, si jamais vous voulez construire l'amitié comme mode de vie, vous devez transgresser la manière dont les âges sont organisés dans nos sociétés avec un cycle de vie fondé sur études jeunesse, famille, travail, etc. L'amitié comme mode de vie, telle que moi je la pratique, et telle que moi je la propose, elle est fondée aussi sur ce que vous dites très, très important de se transformer et donc aussi d'être au contact de gens d'âge très différents. Et moi, je ne comprends pas l'amitié comme mode de vie si c'est pas intergénérationnel. Et en fait, cette intergénérationnalité-là, qui a été beaucoup expérimentée dans la culture gay, c'est un type de vie qui est très transgressif et par rapport à la famille, où l'ordre générationnel est clairement défini. Il y a les parents, il y a les enfants, il y a les grands-parents, et on est chacun dans son monde, quoi. Et avec le mode de vie étudiant, où on voit des gens de son âge, et très souvent, même quand on a 3 ans d'écart, on a l'impression que c'est des ancêtres. Et l'amitié comme mode de vie, c'est une autre culture. C'est une culture qui est autonome de la vie étudiante et de la vie familiale, en sens où elle invente une pratique de la rationalité intergénérationnelle, dans laquelle on peut apprendre des choses de plus jeunes et de plus âgés que soi, et donc on peut se transformer à leur contact. Et à mon avis, c'est vraiment une des choses les plus belles, d'avoir des relations avec des gens d'âge très très différents. Et dans nos sociétés, c'est toujours vu comme un peu louche, alors que moi, je pense que c'est des relations parmi les plus belles qui soient possibles de vivre.
Ah, Geoffroy. Et puis, quand je réfléchissais aussi à ce qu'il racontait là sur cette histoire de jeunesse, moi je trouve qu'un des rituels qui est assez courant dans notre société, enfin, pas parmi nous, mais parmi d'autres gens, l'enterrement de vie de jeune fille, et l'enterrement de vie de garçon, si ça c'est pas un renoncement à l'amitié, parce que donc tu passes à quelque chose de plus mature qui est donc le mariage, tu renonces à tes amis. Enfin, symboliquement, c'est quand même voilà, donc ça existe encore aujourd'hui dans nos sociétés. Voilà, donc c'était un petit tour pour saisir un peu la pensée de Geoffroy de Laganerie sur l'amitié. Et voilà, pour finir, je veux juste dire que je pense à mes amis, big up à mes amis de 25, 35, 50, 60, 70 ans. Et je sais pas ce que serait la vie sans vous. Voilà.
Et maintenant, on va écouter une petite chanson, non ? Que t'aimes bien ?
Ah oui, une petite chanson qui me fait penser à une autre tranche de ma vie, à mon adolescence. On écoute Carole King.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me.
All you have to do is call, and I'll be there.
le 19 mai 2024. Cariño amor. Je t'écris au café Deka, dans ma cuisine, avec le soleil du matin. Je me sens un peu lasse ces derniers jours. Je crois que c'est lié au traitement homéo que m'a donné Anne-Maria. Mais oui, of course, une fête de l'amitié. Ce mot a l'air tout petit à côté du mot amour. Et pourtant, nos amis, c'est aussi nos amours, quoi. Hier, j'ai regardé une série avec une meuf qui se retrouve enceinte et qui choisit de le garder. Elle vit avec trois amis d'enfance et a la bonne trentaine. Ça m'a fait penser à ces histoires d'engagement et au désir de Mino qui plane. Smiley sourire. C'est un peu terrible ce que je vais dire, mais pour la fête de l'amitié, ce sera possible que si j'ai un logement plus adapté à Saul ou bien ce qu'il est plus là. Je m'en veux de dire ça souvent. En même temps, j'ai besoin de le dire, tout ce que j'aimerais faire et que je peux pas. Il y a des lézards qui rentrent chez moi par la porte qui donne sur la terrasse. Ce matin, j'ai fait un rêve où je faisais une rencontre extrêmement tendre, simple. C'était une grande rencontre d'amitié. Avec un peu de désir, mais c'est venu petit à petit. Il n'y a pas du tout eu de sexe dans mon rêve. Ce qui était si bon, c'était la joie d'être ensemble, de se retrouver, la complicité, les petites attentions qui bichonnent, la liberté. C'était tellement bon ce lien que je voulais pas me réveiller. Donc quand j'en sortais un peu, parce que c'était le matin, j'avais envie de me rendormir. Et j'ai fait ça plusieurs fois pour retrouver cette immense et discrète confiance. Ça faisait une sensation de chaud doudou dans le corps et aussi un grand déploiement. Ça me fait penser à la fameuse théorie polyvagale. Ce que je décris là, c'est exactement ce que ça fait quand le ventral, c'est la partie du nerf vagal qui est allumée quand on se sent en sécurité. Donc quand le ventral est allumé et fait ressentir dans le lien cette détente qui peut être joyeuse, joueuse, contemplative, profonde. Il faut que j'aille promener Saul. Je continue cette lettre plus tard. Plus tard. Je réfléchis à la vulnérabilité. J'aime les personnes qui habitent leur vulnérabilité, qui ont appris à se regarder dans leurs endroits de faiblesse, dans leurs facettes tortueuses, avec tendresse. Et avec la conscience que plus on est capable de les regarder, ces facettes, plus on leur donne l'occasion de continuer leur vie. C'est peut-être ça qu'il se passe quand tu dis qu'on change. Mon sensei disait « Soyez heureuse ». Sans le prendre comme une injonction à la con, j'aime bien m'en souvenir des fois. Alice est en train de jouer au capla dans mon salon. Ça fait longtemps que je suis pas allée faire des petites offrandes dans la forêt et chanter quelques prières. Ça m'a fait du bien ces quelques jours, avec du vide, des balades avec les potes, des temps sans engagement ou sans impératif, avec de la place pour du léger et des jeux, et de l'impro. Même que j'ai mangé des madeleines aux pépites de chocolat. Tu sais, j'ai appris que Liam était sorti de tôle. Tu sais comment y elle va? Ah, et au fait, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Alix a eu sa carte de séjour. Enfin. C'est le gros soulagement, après toutes ces humiliations administratives. Et l'angoisse de l'incertitude et de l'insécurité. Je te laisse sur cette nouvelle qui promet une belle fête. Je t'embrasse, cher toi de mon cœur, au plaisir de te lire. Sam. PS. Désolé pour les ratures, j'aurais aimé te laisser une lettre plus jolie. Le 22 mai 2024. Bon matin, Choupinou. Je me dis que dans ma dernière lettre, j'ai pas dit ce que je voulais en parlant de vulnérabilité. J'ai l'impression d'avoir résumé un truc bidon. Quand je te parle, les mots viennent. C'est pour ça que j'aime quand on est ensemble, entre autres. Je voudrais dire aussi un truc qui me vient de l'or. Comme ça compte d'être vu par celles qu'on aime. Que le regard des personnes qui nous aiment et qu'on aime, ces regards qui nous voient, qui voient nos différentes textures, fils, nos nœuds, qui voient nos façons d'être en relation, ça compte. Comment ça compte d'être vu comme ça? de se sentir vu. D'être vu quand on a survécu, d'être vu quand un bout de nous se déploie, être vu quand un bout s'effondre, être vu quand on est paumé, quand on est amoureuse en secret, quand on est trop prudente, puis quand on ne l'est pas assez, quand on merde, quand on angoisse, quand on kiffe. Quand on essaye de se dépatouiller avec des états auxquels on cherche de la cohérence. Quand on a peur. Dans les yeux de l'autre, on cherche des balises. Être vu par des personnes témoins de beaucoup de bouts de nous, de ce qu'on fait au monde et de ce que le monde nous fait.
C'est la fin de la séquence émo.
Oui, alors ben moi je vais continuer. Alors pour toutes ces amitiés qu'on a envie qu'elles perdurent, eh ben il faut les nourrir et donc moi je vous ai trouvé des petites choses pour ça. Alors d'abord, on va parler des câlins. Dans les correspondances aussi, elles en parlent. Et oui, parce que les câlins avec ses amis, quand ils sont consentis, sont très très bons pour la santé. Alors, d'après plusieurs recherches scientifiques, les câlins, ils relâchent les muscles, ils fortifient le système immunitaire, ils réduisent la pression artérielle, ils améliorent la confiance en soi, ils libèrent l'ocytocine, hormone du plaisir, mais aussi de la dopamine, responsable du bien-être, et des endorphines, tout pour la bonne humeur. Donc, ils diminuent le stress, l'anxiété et la dépression. Donc voilà, faites-vous des câlins, c'est très important. Ensuite, une autre chose pour nourrir ses amitiés, je vais vous parler de cinéma, parce qu'une bonne scène d'amitié, ça fait trop du bien. Mes amis vous diront d'ailleurs comme je suis cinéphile.
On non, sent l'arnaque. Que...
je m'endors souvent avant qu'on choisisse le film.
Oui,
alors, je
blague.
Me suis penchée sur les films d'amitié entre meufs, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Et entre personnes minorisées de genre, n'en parlons pas. Enfin, si, parlons-en, mais je n'ai pas trouvé un film avec des personnes trans dont le sujet principal soit l'amitié. Voilà. Donc, une petite liste de films d'amitié entre meufs, ou dont l'amitié est un thème central, même si c'est pas le sujet central, voilà. Et après ça, je vous ferai un petit quiz.
Oh oui.
Alors, ça c'est bon pour nourrir l'amitié aussi de,
ouais,
de jouer.
Carrément, jouer, ouais. T'as raison. Alors déjà, ma petite liste là de films pour vous donner des idées. Premier film, sûrement le plus vieux du genre, et vraiment, ça, il valait vraiment la peine d'être vu, c'est L'une chante, l'autre pas, d'Agnès Varda. Donc déjà, c'est un film réalisé par une femme, et en plus, ça retrace l'histoire de la légalisation de l'avortement. Du coup, il est vraiment bien. Non, mais il est vraiment super. Il est un peu incroyable, il est super kitsch avec des chansons incroyables et tout ça. Voilà. Après, il y a Madres Paralelas d'Almodovar, ces deux mères qui se rencontrent à la maternité. Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air pas mal. Ensuite, Bagdad Café. Bagdad Café, c'est qui déjà, Bagdad Café? Alors, c'est pas réalisé par une meuf, je crois.
C'est maintenant le quiz?
C'est Percy Adlon et c'est coécrit par Éléonore Adlon. Évidemment, elle a pas sa fiche Wikipédia, mais lui, oui. Voilà. Boulevard de la mort, bon, de Tarantino, on va pas s'étaler. Beignet de tomates vertes de John Avnet. Et celui-là, il est super. Alors, il y en a qui disent qu'il est crypto-lesbien, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, ça rentre aussi dans l'amitié.
C'est même bien, non?
C'est même très bien, voilà. Bande de filles de Céline Sciamma. Thelma et Louise, qui a été écrit par une femme qui s'appelle Kali Khoury, réalisé par Ridley Scott, mais ça, tout le monde le sait. Et après, il y a quatre films que j'ai pas vus, mais qui ont l'air sympas. C'est L'été de l'éternité de Emily Ossell, qui date de 2022. C'est sur une amitié adolescente. Enfin, voilà, c'est un peu dramatique, puisque du coup, c'est l'amitié par l'absence. Enfin, bon, bref, vous avez qu'à le regarder. À mon âge, je me cache encore pour fumer. Ça a l'air pas mal, de Rayana Obermeyer. Et Les Coquillettes, qui est un film français réalisé par Sophie Le Tourneur en 2013. Et La Couleur Pourpre de Blitz, je ne sais pas si je prononce bien, mais je vais faire comme je le sens, Bazaoulé. Blitz Bazaoulé, c'est le ou la réalisatrice, voilà, de La Couleur Pourpre. Et là, je dis merci à une amie bruxelloise qui a beaucoup travaillé pour moi. Voilà, merci Manou. Et une petite série Netflix du dimanche que je me suis matée il y a quelques temps, qui est pas trop mal, c'est Les Filles du Dernier Rang. Voilà, pour animer vos soirées entre amis et puis...
Je peux rajouter un...
Ouais, vas-y.
La série canadienne.
M'entends-tu?
Voilà.
M'entends-tu?
Oui, une belle histoire de sororité et d'amitié.
Ouais, ouais, elle était super.
Je suis pas trop allée dans les séries, mais je pense qu'il y en a plein. Et après, bah, du coup, pour aller plus loin, je voulais juste vous parler d'un livre que, pareil, j'ai pas lu, mais il a l'air chouette. C'est Les Utopies féministes au cinéma de Pauline Le Gall, aux éditions Daronne. Je connais pas encore cette édition, mais ça a l'air super. Un livre où elle explore la pop culture et ce qui s'y joue, mêlant réflexion personnelle et travail de recherche. Les lieux des amitiés féminines, ce qu'elles procurent en réconfort et en empouvoirment, ou encore qui décide de les transposer en fiction, sont autant de thèmes abordés auxquels cet essai nous invite à réfléchir. Voilà, moi ça m'a donné envie, et vous pouvez aussi l'écouter présenter le livre dans l'émission « Tous les cinémas du monde » sur RFI, qui est trouvable sur l'internet mondial. On vous mettra les liens. Voilà, et maintenant le quiz. Alors,
oui, on joue.
Je vous présente mon quiz, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs extraits de films, de scènes d'amitié dans des films qui ne sont pas forcément des films sur l'amitié, d'accord ? Mais où il y a, voilà, y a un peu une place pour l'amitié. Et du coup, il faut deviner quels sont ces films. Alors,
dis pas le nom, attention.
Ah oui, c'était quoi ? Non, je voulais vous faire deviner dans quel ordre ils étaient et vous dire quels étaient les films. Ou alors, je vous dis pas... Vous écoutez, vous essayez de voir si vous trouvez des trucs.
On peut essayer, mais si on rame trop, tu nous aides.
Ok, ça marche. Allez.
Il y en a combien ?
8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a que j'ai cités dans la liste, déjà vous pouvez les trouver. Okay. Et il y en a en plus, il y a des séries, il y en a 3 en plus. Je vous dis les titres ou pas ?
Par rapport à ceux que t'as déjà cités ?
Ouais.
Allez, vas-y, dis-les comme ça, tout le monde peut jouer.
Il y a Sister Act, Sex Education, Buffy.
Alright. Je me demandais pourquoi t'avais pas encore cité Sex Education.
Mmh. On est parti ?
On est parti.
On est parti.
Good evening, Miss Yasmin. Good evening, Miss Brenda.
J'ai aucune envie que tu partes, mais plutôt qu'on devienne copines, toi et moi.
Mais je croyais que tu étais déjà copine avec Cordelia.
J'ai pas le droit d'avoir deux copines ?
Ici, c'est rare.
Faut que tu fasses ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux.
Quoi ? Tu vas pas me laisser tomber, j'espère. Je te suis pas. Tu montes pas une combine avec ce gars-là. Tu comprends? J'aime autant savoir. Je monte pas de combine, je te le garantis.
Je suis contente qu'on soit ensemble pour ton premier bébé. On va s'amuser.
Nous serons toujours ensemble.
C'est ce que Diana Ross disait.
Qu'est-ce que tu fais ici ?
Je prends le bus. On prend toutes les bus.
Alors, vous montez ?
Donnez-lui une minute. C'est rien qu'un stupide bus. C'est rien qu'un stupide bus,
ouais.
Vous êtes folle, bon sang de bois, qu'est-ce que vous foutez ?
Elle demande comment faire la cuisine !
Ça commence à bien faire, je vais vous arrêter pour inconduit.
Eh ben arrête-nous !
Laisse-moi rentrer.
D'accord.
Ready ?
Arrête-nous ! Mais vas-y, arrête-nous, Ready !
Oh, route, il faut bien le dire. Pidgey a une très mauvaise influence sur toi.
Il a raison.
Ok, alors...
C'était pas facile, hein, c'est pas que facile.
Et non, c'est pas que facile parce que c'était pas facile de trouver des extraits d'amitié assez longs où ce soit explicitement des moments d'amitié. Voilà.
Bon, entre meufs.
Entre meufs, tout à fait.
Gaëlle, tu les as ? Tous ?
Elle fait non. Elle fait non, mais on sait qu'elle sait.
Elle en a deux. Ouais. Toi, Jo, t'en as ?
Mais moi, j'ai l'impression que... J'ai mis des titres pour tous les extraits, en sachant que je me suis probablement trompée, mais
ouais,
j'ai joué.
Alors ?
Moi j'en ai 6.
Okay.
5.
On espère que vous les avez tous. Hein.
Ouais. Vous pouvez nous envoyer une carte postale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit truc. Bah, la dernière fois, c'est vrai qu'on avait fait un blind test. Je ne sais plus sur quelle émission, mais on a eu...
On
a eu une carte postale.
Merci. Et t'inquiète, on pense à toi. Calendrier, quand on le fera, parce qu'on le fera un jour, mais on avait dit que c'était un jour. Hein.
Ouais.
Tu l'auras.
Ouais, c'est ça. Peut-être que ce sera l'année 2027, on ne sait pas.
C'est possible.
Mais
il sera pour toi.
Il sera pour toi, big love. Alors,
premier extrait, good evening, Mrs. Jasmine.
Ah,
je ne l'ai pas.
Miss Jasmine.
La couleur pourpre.
Et non, c'est Bagdad Café.
Ah ouais.
Bravo, Gaëlle, elle l'avait.
Ouais.
Et c'est, je crois que c'est le moment où ça parce qu'au début, elles ne sont pas copines. Hein. Et là, c'est un peu le moment de...
Rapprochement.
De la reconnaissance.
C'est pas le coup de foudre amical, mais...
Mais non, mais là, ça y est, quoi. Okay. Ça commence, je crois bien. Voilà.
Un calendrier pour Gaëlle, 2027.
Deuxième extrait.
Moi, j'ai
reconnu Willow.
Eh oui, désolée pour les versions françaises pourries.
La VF, c'est ça tue l'ocytocine, ça, non ?
Eh oui, ça tue tout, mais bon, c'est pas grave. C'est Buffy.
Ouais. J'ai copié sur mon ami Jojo.
Et troisième extrait.
Je l'ai pas.
Faut que tu fasses ce que tu veux. Faut que je fasse ce que je veux.
Bande Buffy ?
Oui !
Waouh !
Bravo !
Oui.
En fait, il y a la grosse musique derrière parce que c'est la BO, en fait.
Eh oui.
Du coup, je suis pas sûre que dans le film, cette musique-là, à ce moment-là, mais voilà. Et quatrième extrait...
Le classico-classique, Gaël.
Tu l'as, Gaël.
Non.
C'est sûr.
Dans la voiture, les deux dans la voiture.
Allez, oui, Thelma et Louise.
Thelma et Louise. Celui-là aussi, il y en a qui disent qu'il est crypto-lesbien, mais je crois que je suis pas d'accord. Je l'ai revu il y a vraiment pas longtemps dans un festival dans le Vercors et je... C'est pas clair. D'ailleurs, si vous avez un avis sur la question, vous pouvez aussi nous écrire une carte postale.
J'en suis à combien ? Cinquième extrait.
Ah, mais ça, c'est mon film préféré ever de toute la vie. C'est Sister Act.
Mais non, ça, c'est...
Ah bah non. Ah bah, j'ai raté un extrait.
Voilà, t'as raté un extrait. Du coup, c'est celui où elle dit « Je suis contente qu'on soit ensemble pour ton premier bébé, pour ton bébé, ou je sais pas quoi. »
Ah, ça va, tu vois, c'est passé à la trappe, je sais pas pourquoi.
Et ben c'est l'une chante l'autre pas d'Agnès Varda.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Et là c'est pareil, il y a plein de super scènes dans ce film d'amitié, mais c'était pas la meilleure, mais j'ai trouvé que ça voilà.
Arrête de t'excuser, c'est super.
Donc le sixième extrait, passons, c'était
Sister Act.
Voilà.
Tu l'avais, Gaëlle ?
Gaëlle,
bah ouais, ça fait déjà quoi ? Vraiment trois calendriers
voilà,
2027.
Avec Whoopi Goldberg. Et le septième extrait,
bah,
le
c'était...
bus.
Vas-y, Jojo.
Sex Education.
Bravo.
Le moment
elle
où elle veut
belle,
pas
mon...
ouais, elle a peur parce qu'elle est traumatisée du bus.
Ouais,
et finalement,
de son agression sexuelle dans le bus. Et il y a toutes ses copines qui l'attendent à l'arrêt de bus pour prendre le bus avec elle. Et ça,
ouais,
c'est trop beau.
C'est trop beau comme, sororité.
Trop, trop beau. Et puis le dernier extrait, qui est quand même un super extrait parce que c'est le gros fou rire entre copines. Et voilà.
Alors,
qu'est-ce que c'est?
Moi, j'ai mis beignet de tomate verte.
Oui.
Tu l'avais aussi,
ouais.
Ah,
ouais,
wow.
Ouais.
J'ai fait une moche coupure pour pas qu'on entende beignet de tomate verte, parce qu'à un moment elle lui dit elle m'apprend à faire des beignets de tomate verte et elle est morte de rire. Et voilà.
Allez,
donc c'était Fanny Flagg et Carole Sobieski qui se tapent des barres, voilà, qui se marrent bien.
Trop bien, merci hein, pour ce petit quiz.
Ah ouais, ça.
Ben, avec plaisir, c'était marrant de faire ça.
Je sens l'ocytocine, je sais pas vous.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien, ça nourrit l'amitié. On fait un câlin là-dessus, puis hop.
Voilà.
On est
gros
au top.
Gros câlin.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour nourrir l'amitié? Bah, c'est danser ensemble, par exemple. Ça, c'est vachement bien.
Ouais.
Et du coup, bah, on va pouvoir danser sur la prochaine musique, qui est une, ou pas danser, faites bien ce que vous voulez, hein, mais une chanson d'Angélique Kidjo et Assa, qui sont deux grandes chanteuses, une grande diva franco-béninoise et une auteure-compositrice franco-nigériane, qui chante une chanson qui s'appelle Eva, qui est une ode à l'amitié, et là, à l'amitié entre meufs.
Voilà. Waouh.
Wishing for a friend, someone to call my own. Who's left for me? Have no bound and can't be sold. Give me a friend who's gonna catch me when I fall. Oh, when I fall.
Le 23 mai 2024. Coucou mon petit pote. Humeur brumeuse ce matin. L'heure est à la pluie. Quelle victoire cette carte de séjour. C'est dingue, ça fait l'effet qu'il faudrait faire la fête de l'année à chaque nouvelle comme ça. Quel système de merde. Humeur brumeuse, hein, je t'avais prévenu. On sait faire partager nos vulnérabilités. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ou est-ce qu'on a appris à le faire? Parfois, ça me perturbe précisément pour ça, le monde des moldus. C'est comment qu'on partage nos vulnérabilités dans le monde des moldus? Pardon pour Yel, hein, mais c'est comment, ça veut dire quoi, l'engagement dans le monde des moldus? Je me sens ovni, pas le seul ovni, mais vraiment ovni avec ça. Humeur brumeuse, comme une envie de confetti. Une pulsion sanguine, effet champomie, tu vois, qui pousse. Et pourtant, une belle chape de béton, Tu sais, un joli menhir qui ralentit un peu le déclenchement, le jaillissement. Si bien qu'il pleuve, des fois, ça lave les menhirs. Je te refais un petit passage Love Bisounours. As-tu réellement conscience de la puissance atomique du câlin ? Vive mes potes, hein, sérieux, j'ai le droit à des quantités de câlins, j'ai trop de la chance. Ne vraiment pas négliger la puissance du câlin. J'aimerais avoir du temps, de l'espace pour... de l'espace dans moi, pour m'occuper d'autre chose que des aléas de notre équipe. Bientôt. Envie d'ouvrir, envie de... besoin d'avoir l'impression de servir à un truc dans ce merdier. Ah, je t'avais dit, hein, humeur brumeuse. Te quiero, beauté. Prends soin de toi. PS. Et si je pouvais, petite idée comme ça que je te partage, si je pouvais, mais comment j'adopterais ? Une petite envie, je te le partage là, comme ça. À vite. Miette.
Alors, on vous a sorti une dinguerie, mais une vieillerie du placard, quoi. Hein. Un vieux R&B 1992 de TLC. TLC, c'est du coup un trio, Thibaut, Left Eye et Chili, qui ont été sacrifiés, on a dit 11 fois, 10 de platine.
Certifié, je crois.
Certifié. Non, on dit pas sacrifié.
Je crois pas.
Ouais, je sais pas ce qui s'est passé.
TLC.
On dit aussi TLC, bref, en fait c'était pas à moi d'entendre ce truc. En tout cas, c'est une chanson qui s'appelle What About Your Friends, où elle célèbre l'amitié, voilà.
Il y avait pas l'un de meufs hein, à cette époque-là dans le R&B. Hein.
Dans le R&B, dans le rap, ouais. C'était la belle époque. Non, c'est pas vrai, c'est encore la belle époque, mais
ouais.
Mais il y a eu comme un retour de bâton, quoi. Un petit backlash, comme d'habitude. Bim, bim.
Voilà, voilà, on s'achemine vers la fin de cette émission sur l'amitié. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis toujours dans mon espèce d'émotion à fleur de peau. Je pense à tous mes amis, à tous mes liens.
Grosse dédicace à tous nos amis.
Oui, et puis, pensée spéciale. Moi, je dédicacerais bien cette émission à Yuri, notre noctule vénéré, noctule de notre cœur. Voilà, une émission sur l'amitié pour toi, ami de mon cœur.
Mmh. Et aussi, on fait un petit big up aux personnes qui écrivent des lettres, qu'elles lisent ensuite dans notre micro, qui sont... est-ce qu'il faut les dire ou est-ce que c'est anonyme ?
Non, c'est Chico et Marie, elles ont dit...
Ok, voilà.
Merci à vous pour votre contribution.
Beau.
Oui, c'était beau. Voilà, voilà, ben, les noctules de ce mois de juin, c'est terminé.
Mmh. On ne sait pas trop ce que l'été nous réserve.
On ne sait pas trop, mais c'est des surprises, mystère. Peut-être un calendrier. on ne sait pas. En tout cas, voilà, c'était super de faire cette émission. Merci beaucoup à Gaëlle pour la technique avec plein de jeux et d'extraits. Enfin voilà, plein de pistes à lancer. C'était pas que simple. Alors merci beaucoup. Et voilà, bye bye.
On va écouter quand même un gros tube sur l'amitié repris par pas n'importe qui.
Ouais.
Mmh. Ouais.
C'est Pomme.
Ouais.
Et Safia, je crois qu'on dit. Nolin.
Ouais.
Noline. Elle est québécoise, alors je sais pas.
On ne sait pas.
Pas n'importe quel tube. Mais vous avez évité la version originale de cette chanson. Et
ça, c'est. Vous allez nous dire merci. Merci.
Ouais. Alors, ben, merci les amis noctules.
Ouais, faites des bisous à vos amis.
Oui, et des câlins.
Et des câlins, beaucoup de câlins.
Mais oui,
gros c'est câlins à tous.
Gros câlins à tous. À bientôt.
À bientôt.
Depuis quelque temps, même si on se parlait peu souvent, c'est vrai, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je te sens si fragile, le cœur à découvert. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets, car je resterai ta meilleure amie. Je serai là toujours pour toi. N'importe où quand tu voudras, je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire des folies, je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. Mais sera rien au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure amie. Des fois on se chamaille pour un garçon ou pour un détail. Ça donne tout pour toi, tout pour moi. J'ai bien l'impression qu'on se ressemble, qu'on est bien ensemble. J'ai envie qu'on se parle de tout et de rien, car je resterai ta meilleure amie. Je serai là toujours pour toi. N'importe où quand tu voudras, je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire des folies, je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On ne laissera rien au hasard. tu sais que je resterai ta meilleure amie. On laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai, car tu sais que je resterai, car tu sais que je resterai ta meilleure amie. Hey, hey.